c'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi, en compagnie aujourd'hui des Hermels, des petits bâtisseurs de la mer.
LEM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine, avec de vrais embruns de Finistère dedans, et des grains de sable, et des tout petits bâtisseurs, encore des vers marins. Vous savez, on vous a déjà parlé des annélides poliquettes, avec un autre scientifique, Gabin Droual, qui identifie et qui classe ces vers étonnants pour le compte de l'IFREMER. Aujourd'hui, un autre scientifique, docteur en écologie marine, vient nous présenter les hermels. Notre invité en est le spécialiste mondial. Il étudie Sabellaria alveolata, qui construit des récifs entiers avec ses petits tentacules. Tentacule est un nom masculin, je l'ai redécouvert récemment. Hermel est un mot féminin, mais comme ce sont des vers, on emploie parfois le masculin pour les désigner. Bonjour Stanislas Dubois.
Bonjour.
Donc vous êtes chercheur en écologie marine à l'IFREMER et spécialiste des invertébrés, et en particulier de ces hermels. Et hermel, c'est le nom commun de Sabellaria alveolata, c'est ça ?
C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle le nom vernaculaire, le nom qu'on lui donne classiquement dans la rue.
Parce que parfois, les noms vernaculaires, ils désignent en fait plusieurs espèces, mais là, ce n'est pas le cas. C'est bien ciblé.
Oui, en général, c'est en général une espèce a un nom vernaculaire, mais c'est vrai qu'on peut se tromper. D'où l'intérêt d'utiliser un nom latin, parce que le nom latin, c'est un peu une langue internationale pour nous, scientifiques qui classons les animaux. Donc, on est sûr de ne pas se tromper.
Et alors, ce nom latin, Sabellaria alveolata, alors Sabella, je crois que ça veut dire sable, c'est ça, non ?
Non, alors c'est Sabellaria.
Ouais.
Il existe aussi des sabelles qui sont d'autres vers. Donc là, voilà, Sabellaria, c'est le nom de genre. Alveolata, parce que quand on les regarde de près, on s'aperçoit que les récifs qu'ils construisent forment des petites alvéoles.
En effet. Et on va voir en quoi. Enfin, on a dit un petit peu en sable, mais bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire déjà l'animal qui est un ver ? Moi, je trouve qu'il ressemble pas tellement à un ver, mais bon.
Alors oui, alors il ressemble à un ver parce qu'il a une forme vermiforme. Il est, mais la particularité, c'est que il existe schématiquement deux grandes sortes de vers, les vers qui se déplacent, qu'on appelle errants, et puis les vers qui vivent fixés, souvent dans un tube, qui sont tubicoles. Et là, c'est un petit ver qui est tubicole, qui vit dans un tube. Alors il mesure à peu près 3 cm de long.
Quand même.
Et il a 3 grandes parties. D'abord la tête, ce qu'on appelle la partie céphalique, qui est un organe très important, enfin une partie pour lui très importante, parce qu'en haut de sa tête, il a une sorte de couronne operculaire, qui est même une couronne dorée, parce qu'elle est formée par des soies, qui sont des soies aplaties et qui forment une couronne.
On dirait un peu une grande bouche pleine de dents, en fait. Enfin, je trouve, de l'extérieur.
Oui, de loin, ça fait ça, mais ouais. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un chapeau pour lui. Et puis, donc ce chapeau, en fait, il lui sert à fermer son tube quand il est descendu dans son tube, en fait, ça fait une espèce de toit, et puis ça limite l'évaporation de l'eau à marée basse, puisqu'il vit dans la zone de balancement des marées, donc il est émergé 2 fois par jour et immergé 2 fois par jour. Donc ça, c'est la première partie de la tête, et puis juste en dessous cette couronne, on a des filaments tentaculaires, une espèce de chevelure qui est à marée haute, étendue dans l'eau. Et c'est la seule partie en fait, qui ressort vraiment du tube. Et cette chevelure lui permet de capturer des particules dont il se nourrit, le phytoplancton, et puis des particules de sable dont il se sert pour construire son tube.
Et les tentacules, finalement, sont longs,
De l'ordre du centimètre.
Quand même, ouais.
Ils sont très fins, il y en a plusieurs centaines, avec des micro-cils. C'est très complexe, ça sécrète du mucus aussi, parce que le mucus dans le monde marin, c'est ce qui permet de faire glisser les choses. Et donc la nourriture ou les particules glissent le long de ces filaments tentaculaires dans des gouttières qui conduisent tous ces éléments jusqu'à la bouche. Et autour de cette bouche, qui fait partie de la tête, il y a des palpes qui vont mesurer, calibrer, tester ce qu'il a capturé. Et puis, si ça lui plaît, il l'ingère, si c'est de la nourriture. Si ça lui plaît et que ça a une bonne taille de grain, il le garde. Et puis, si ça lui plaît pas, il peut l'éjecter à côté. Mmh. Donc ça, c'est ce qui forme la tête. Ensuite, on a sous la tête le thorax. Et le thorax, il est principalement constitué par des pieds qui portent des griffes. Et ces griffes, qui sont des griffes rétractables, lui permettent de se déplacer en haut et en bas dans son tube de façon assez rapide.
Ah oui, donc il n'est pas collé au sol.
Il n'est pas collé, il n'est pas fixe dans son tube, il est libre de monter et de descendre dans son tube. Il n'en sort jamais, mais il peut monter et puis sortir ses tentacules dans l'eau, ou alors descendre dans son tube et se protéger des prédateurs ou se protéger de la dessiccation, en fait.
Oui, parce que le tube, il est donc un peu plus haut que l'animal lui-même, quoi. Il fait plus que 3 centimètres.
Ah oui, le tube, il fait beaucoup plus. Il peut faire même plusieurs dizaines de centimètres.
Ah oui. Et il n'est pas tout droit, alors, si ?
Il n'est pas tout droit. Ah, ouais. Il y a des circonvolutions, parce qu'il se... Ils s'appuient les uns sur les autres pour construire leur tube. Ce qui fait
qu'il y a même une compétition, on va en reparler. Mais
ouais, c'est ça, ouais, il y a même une compétition les uns avec les autres. Ils construisent aussi vite qu'ils peuvent et le plus haut possible. En fait, tant qu'il capture du sable, il construit son tube.
Et il le construit avec les palpes dont vous parliez ou avec un autre organe?
Il le construit avec son... Avec les palpes qui lui permettent de calibrer les grains de sable qu'il a capturé, donc il en teste la nature, la forme, et si le grain lui plaît, à ce moment-là, il va appliquer des petits points de colle autour de ce grain, et avec ses palpes, qui sont des sortes de mains, il va aller les appliquer autour de son tube, et puis cette colle, qui est une colle particulière, une colle biologique, elle va immédiatement durcir et puis coller ce grain aux autres grains. Et donc, il va choisir en priorité des grains qui sont plutôt des grains plats. Et ça va, comme ça, construire un intérieur du tube qui est extrêmement lisse, un petit peu comme les tuiles d'un toit de maison. Quand on regarde, en fait, une coupe de tube, on voit que l'intérieur est vraiment lisse et formé d'anneaux extrêmement lisses. Et le ver peut, comme ça, monter et descendre facilement dans son tube.
Et en combien de temps il va construire l'architecture principal du tube, avant de l'améliorer, on va dire.
Alors vite, très vite. En fait, dès qu'il se fixe à l'état de tout jeune ver, il va construire un tube. Il a d'abord une matrice qui est faite de vase ou de sable très très fin, et puis immédiatement, il va capturer les premiers grains possibles, et puis construire un premier tube, en fait, avec ce qu'il a trouvé à portée de main. Évidemment, uniquement des petits grains, parce qu'au départ, il est petit, il fait quelques millimètres. Et puis, quand il aura sa taille adulte, c'est-à-dire environ 3 cm, là, il pourra se débrouiller avec des grains qui sont beaucoup plus gros et qui font plusieurs millimètres.
Alors, on était à la tête, l'abdomen, c'est ça ?
Le thorax, juste sous la tête, et puis l'abdomen ensuite.
D'accord.
Donc, l'abdomen, chez la plupart des vers marins, c'est simplement une répétition de X fois la même chose. Et donc, ce sont des anneaux, d'où le nom annélide, en fait, ce sont des anneaux. À l'intérieur de ces anneaux, on va trouver tous les différents organes. C'est d'ailleurs à l'intérieur des anneaux où on va trouver les gamètes, les spermatozoïdes aussi, pour la reproduction. La particularité de ce ver, Sabellaria alveolata, c'est qu'il a, à la fin de son abdomen, un tube qui remonte le long de son ventre et qui lui permet l'évacuation de ses déchets. Et donc, c'est une adaptation à cette forme de vie tubicole, parce que le tube n'a qu'une ouverture, une ouverture vers le haut. Donc, les déchets, il faut bien les évacuer à un moment. Donc, à marée haute, quand l'eau est là, on voit des espèces de des expulsions de déchets du ver qui est le résultat de sa digestion. Il utilise en fait cette adaptation anatomique qui fait qu'il y a le tube d'évacuation qui remonte le long de son ventre vers le haut du tube.
Donc il est en U un peu, quoi, si
il
on peut parler de ça.
U, ouais, exactement. Okay. Il est un peu en U.
Mais il construit son tube donc toute sa vie, sinon. Enfin, il continue. Ouais.
Toute sa vie, c'est un processus continu. Tant qu'il a du matériel, tant qu'il a les briques, que sont les grains de sable, il construit son tube. Et c'est pour ça que dans certains environnements, ben, les récifs qu'il construit vont rester finalement assez ras du sol parce que les apports en sable sont finalement limités. Mais dans d'autres environnements, comme la baie du Mont-Saint-Michel ou la baie de Bourgneuf, où là, à ce moment-là, on a des mouvements de vagues et de houles qui permettent au sable d'être remis en suspension, eh bien là, il arrive à capturer des grains de sable jusqu'à 2 mètres de haut. Et les récifs font donc plus de 2 mètres de haut.
Et ils peuvent s'étendre aussi, on va en parler aussi tout à l'heure, sur vraiment une surface énorme. Alors, on a parlé de son œuvre, sa vie à l'Hermel, Sabellaria alveolata, c'est quoi, enfin, son cycle, comment il se reproduit, puisqu'il ne bouge pas
Non, c'est ça, il ne bouge pas. Alors, c'est une espèce qu'on dit gonochorique, ça veut dire que les sexes sont séparés. Il y a des hermels mâles et des hermels femelles. On les reconnaît d'ailleurs assez facilement parce que les mâles ont plutôt une couleur blanche au niveau de l'abdomen et les femelles plutôt une couleur rose. Ça fait un peu cliché, ouais, mais c'est le cas.
En effet, c'est comme ça.
C'est comme ça. Et donc, au moment de la reproduction, c'est-à-dire à la sortie de l'hiver, là on va y arriver, au mois de mars à peu près, les gamètes sont matures et à ce moment-là, à marée haute, surtout au moment des grandes marées, les femelles et les mâles émettent leurs produits sexuels dans l'eau, donc les gamètes et les spermatozoïdes, il y a fécondation et formation en quelques heures d'une petite larve.
Ah oui, c'est rapide en effet.
Ouais. Ouais. Et cette petite larve, qui mesure environ 50 micromètres, va passer un temps assez long dans la colonne d'eau. Elle va être ballottée au gré des courants pendant 3 ou 4 semaines. Et là, c'est la phase qu'on dit la phase pélagique de cette espèce, c'est-à-dire que c'est la partie de sa vie qui est dans la colonne d'eau. Et pendant ces 3-4 semaines, elle va grandir, elle va se nourrir de toutes petites particules qu'il y a dans la colonne d'eau.
Donc toujours végétale, enfin.
Oui, c'est ça. Et puis, au bout de 3-4 semaines, parfois un petit peu plus, selon la température de l'eau, eh bien, elle va être compétente. Compétente, c'est-à-dire qu'elle va être capable de se fixer. Et pour démarrer, l'autre partie de sa vie, qui est la partie benthique, c'est-à-dire au fond. Et donc, à ce moment-là, elle est plus grosse, elle mesure un demi-millimètre, et puis elle va commencer à descendre au fond. Et là, elle a une particularité, c'est qu'elle a deux palpes, qui sont deux sortes de grosses antennes, qui vont lui permettre de détecter l'environnement chimiquement. Et elle va savoir si c'est bien pour elle ou pas bien pour elle. Et ce qui est bien pour elle, c'est quand elle est parmi les siens.
Et oui.
C'est-à-dire qu'elle est capable de détecter le signal chimique qu'il y a des adultes. Et ce signal chimique, c'est la colle que les adultes ont utilisée pour coller les grains entre eux. Et elle, cette larve, elle est capable de détecter ce signal chimique. Autrement dit, ce signal lui dit « c'est bon, tu peux te fixer et tu seras bien parce que tu seras parmi les tiens ».
Ça a dû être dur pour les premières hermelles, alors.
Ça a dû être dur.
Enfin, ça arrive quand même qu'il y ait des hermelles pionnières.
Oui, complètement. Ouais. Dans des endroits où les larves sont arrivées, ballottées par les courants, où il n'y a pas d'autres récifs, eh ben, faut bien qu'elles se fixent quelque part, hein, parce qu'à un moment, elles ne peuvent plus retarder cette partie de leur cycle de vie. Et donc, y a les roches. Il faut un substrat dur.
Oui, quand même,
donc,
voilà, c'est ce
roches,
que j'avais demandé. Ouais.
C'est bien. Mmh. Il y a d'autres choses qu'elles adorent, ce sont par exemple les coquilles d'huîtres.
Ah oui.
Ouais. Dans certains endroits, en fait, on pense que les premières hermelles, par exemple, qui ont colonisé la baie du Mont-Saint-Michel, un endroit où il y a de grands, grands récifs, on pense qu'au départ, il y avait des banquettes d'huîtres plates. Et ce sont les coquilles d'huîtres plates qui ont servi de support pour ces hermelles pionnières, en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'huîtres plates à cette époque.
Et ça ne gêne pas les huîtres, si, peut-être à force, quand même.
Alors, j'imagine qu'une huître qui se retrouve avec un bloc de récif construit elle, elle a beaucoup plus de mal pour se déplacer, mais peut-être pas plus que ça, finalement. Mais néanmoins, c'est ce qui a valu, dans des temps anciens, alors anciens étant les années 1920 environ, pour que les hermelles soient classées comme un parasite des huîtres.
Ben oui.
Parce qu'on les retrouvait sur les huîtres. Et donc on se disait, ah, voilà un parasite des huîtres, comment est-ce qu'on fait pour l'éradiquer ?
Eh, pas de bol, pas de bol pour les hermelles. Et ça vit combien de temps une hermelle qui va bien ?
Alors, une hermelle qui va bien peut vivre assez longtemps. Une fois qu'elle a complété son cycle et qu'elle est fixée, elle construit son tube et elle va donc, comme on l'a dit, le construire toute sa vie. et elle peut vivre environ 4 ans, 5 ans. C'est une moyenne. Des naturalistes ont réussi à les garder beaucoup plus longtemps, en fait, en aquarium. Et évidemment, elle peut vivre beaucoup moins longtemps s'il y a un prédateur qui passe par là.
Ah oui, exemple, c'est quoi les prédateurs ?
Oh, ça pourrait être certains poissons. Il y a des poissons qui ont un pouvoir d'aspiration tellement fort qu'ils arrivent à les sortir de leur tube en les aspirant. Il y en a d'autres qui arrivent à leur brouter la tête parce qu'ils sont assez rapides, mais l'hermel peut se retirer.
Quelle horreur.
Alors la tête repousse.
Ah bon, oui.
Okay. Ça met longtemps, mais ça repousse.
Bon.
Et puis il peut y avoir les crabes aussi qui patiemment découpent les tubes petit à petit jusqu'à ce que l'hermel soit acculé au fond de son tube et n'arrive plus. Et là, elle fait l'objet d'un repas pour un crabe vert ou quelque chose comme ça. Et puis il y a toutes sortes d'autres prédateurs qui arrivent à rentrer dans le tube et qui se nourrissent des hermelles. Mais donc, en moyenne, c'est quand même une durée de vie assez longue pour un ver marin.
C'est ça, pour un animal qui n'est pas très gros, finalement. Non. Et il y a quand même une compétition entre les hermelles, alors, à l'installation, notamment.
Oui, parce que c'est donc ce qu'on appelle une espèce grégaire. Hein, c'est-à-dire que les larves sont pondues en même temps et en général arrivent en même temps sur un récif existant ou sur un endroit vierge. Et donc là, on a un espèce de couvert. Ça forme comme un espèce de velours qui est en fait des centaines de milliers de toutes petites hermelles qui vont construire aussi vite que possible. Alors,
il n'y a pas de place pour tout le monde, quoi.
Il n'y a pas de place pour tout le monde parce qu'elles grandissent vite, elles construisent vite. Donc, le tube s'élargit vite, ce qui fait que ça forme ces espèces de champignons, en fait, c'est ceux qui construisent les plus vite qui s'en sortent. Ce qui fait que aussi, il est fréquent de retrouver des adultes qui ne construisent pas aussi vite que les jeunes, se retrouver enfouis, en fait, sous les tubes des jeunes. Et au bout d'un moment, ils finissent par mourir.
Oui, puis ils ne peuvent plus manger, en fait.
Ils ne peuvent plus manger. Ouais. Ils peuvent plus manger. C'est bien le problème. Ils ne peuvent plus sortir. Ils ont été pris par la vitesse de construction des jeunes. Et c'est une vraie compétition pour la place dans ces cas-là, oui.
Et peut y avoir combien d'étages comme ça ?
Alors, c'est exactement ce que ça fait.
De générations, quoi.
Il y a des générations qui forment des étages, et puis il y a certains adultes qui restent parmi les jeunes grandissent, et ça peut aller très très loin. Alors, plusieurs dizaines de couches successives, jusqu'à ce que, au gré de courants forts, surtout au gré de grandes tempêtes, en fait, il y ait des blocs de récifs qui tombent, qui soient érodés, qui tombent, et puis ces blocs roulent en fait et vont s'accumuler les uns à côté des autres jusqu'à former ces blocs-là un support pour une génération suivante qui va venir et qui va solidifier, cimenter en quelque sorte ces blocs qui sont arrivés là et puis un récif repart comme ça.
D'où l'extension possible en surface des récifs d'Hermel. Enfin, ça peut être très, très... Donc, c'est dans la baie du Mont-Saint-Michel, c'est ça qu'on connaît les plus grands récifs ou...
C'est exactement ça. C'est exactement le mode de propagation d'un récif. Il y a des endroits où les blocs roulent les uns à côté des autres, s'accumulent, repartent. Il y a d'autres endroits où les blocs régressent. Et vu du ciel, ça fait comme une espèce d'amibe qui tendrait ses pseudopodes dans un endroit pour progresser, pour avancer, alors que dans un autre endroit, elle serait en train de régresser. Et dans la baie du Mont-Saint-Michel, on a effectivement une bonne connaissance de cette dynamique spatiale des récifs. Aujourd'hui, les derniers inventaires font qu'on a environ 100, entre 100 et 120 hectares d'hermel, enfin recouverts par les hermels, dans cette baie. Et... ce qui en fait... la plus grande construction animale d'Europe.
Ah oui, et on sait combien de temps ça a pris ? Enfin, on a une idée à peu près en calculant ?
Non, on n'a pas d'idée. On n'a pas d'idée parce que, à l'inverse, par exemple, des récifs coralliens, qui sont une bonne analogie pour les récifs d'Hermel, qui sont des récifs tempérés, eux, on ne peut pas faire de carotte pour dater en fait à la base, puisque le récif se déplace sur la côte. En fait, on peut remonter que jusqu'aux derniers écrits qu'on aurait, alors que dans les récifs coralliens, on peut dater très profondément. Ils ne bougent pas, eux. Ils ont un socle qui est pérenne et qui ne bougera pas. Voilà, là, les premiers écrits qu'on aurait dans la baie du Mont-Saint-Michel datent des années 1820. Et donc, on sait que les Hermelles étaient là, ont été identifiées. Avant, on ne sait pas.
Et sinon, les Hermelles vivent partout dans le monde ou il y a des zones de préférence ?
L'Hermelle, Sabellaria alveolata, est une espèce essentiellement européenne. Bon, on la trouve du nord de l'Afrique, c'est plus l'Europe, mais nord de l'Afrique jusqu'aux côtes écossaises. Et voilà, et nulle part ailleurs. Par contre, elle a des cousines du même genre, Sabellaria, ou d'autres genres, qui construisent des récifs à s'y méprendre, donc même, presque même taille, même structure, avec du sable, même principe de colle. Donc on en trouve d'autres, on trouve d'autres cousins, en fait, un peu partout dans le monde, notamment sur les côtes américaines, Floride, les côtes sud-américaines aussi, il y en a beaucoup. Mais même en Inde, il y a des espèces d'hermelles, c'est un autre genre, mais pareil, ils construisent des récifs dans d'autres endroits assez similaires.
Et nous, Stanislas Dubois, si on veut regarder des hermelles, est-ce qu'on peut, parce qu'il y a une certaine profondeur, j'ai cru comprendre. C'est pas, voilà, c'est pas juste au bord de la plage et c'est pas non plus très profond.
Non, si on veut voir l'hermelle, c'est très difficile parce qu'on la voit à marée basse. Donc on se déplace sur les cailloux et puis on voit une structure qui fait penser un gâteau de ruche de miel, comme disaient les naturalistes dans le temps. Donc, finalement, des espèces de structures alvéolaires en sable. Et là, on se dit, il y a des hermelles. Mais l'animal, on ne le voit pas parce qu'il est dans son tube. Ouais. Et donc, à moins de casser quelques tubes, on ne voit pas l'animal. On voit ce qu'il a produit, ce qu'il a créé, ce qu'il a généré avec son activité biologique. Et ça, on le voit finalement assez fréquemment parce que c'est une espèce qui est quand même fréquente.
D'accord. Même chez nous, là, enfin, les plages alentour, entre guillemets, du Finistère, on pourrait éventuellement voir des petits récifs.
On pourrait en voir chez nous, localement, en baie de Douarnenez.
Ah oui.
Après, en Bretagne Sud, c'est très fréquent. On trouve très fréquemment, beaucoup moins en Bretagne Nord, un petit peu à Lannion. Et puis dans la baie du Mont-Saint-Michel, on l'a dit, mais en Bretagne Sud, c'est très fréquent, de Concarneau jusqu'à l'estuaire l'estuaire de la Vilaine, on en trouve de façon très très fréquente. Mais on n'y prête pas ou moins attention parce que ça ne se mange pas. Mmh. On fait attention aux moules, on fait attention aux huîtres, éventuellement aux algues, mais les hermelles, ça ne se mange pas. Et puis comme on ne voit pas que c'est un animal, on pense qu'il y a une accumulation de sable. Donc l'enjeu il est là, apprendre à les identifier, à les noter, à les répertorier.
Et d'ailleurs, sur le site internet que vous avez conçu, qui est vraiment très bien fait, qui vulgarise vraiment les hermelles, vous vous invitez à signaler si on sait les reconnaître, c'est ça ?
C'est exactement ça. C'est un site qui a deux fonctions principales. On peut effectivement signaler la présence d'hermelles. Donc on y va et puis il y a une carte pour zoomer, on dit voilà, sur cette plage, sur cette pointe rocheuse, j'ai vu des hermelles, et puis on peut y mettre une photo, un petit commentaire. Tout ça, ça nous sert beaucoup parce que faut savoir que les études sont essentiellement gouvernées par des informations sur la présence ou sur l'absence, en fait, de cette espèce. Donc on mise beaucoup là-dessus. Et puis, effectivement, j'y ai rassemblé sur ce site, à travers une plateforme de réalité virtuelle, j'y ai rassemblé tout ce qu'on savait aujourd'hui sur cette espèce, en essayant de le vulgariser au maximum et fournir un aspect un peu ludique, en fait, pour que les personnes puissent, derrière leur ordinateur, manipuler une hermelle qui a été complètement reconstruite avec des infographistes qui ont fait un travail super. On s'est assis derrière un microscope et puis on a regardé tous les détails qu'il y avait sur l'hermelle et ils ont tout reconstruit à la soie près. Donc c'est extrêmement réaliste. On y a mis des boules en photogrammétrie, c'est-à-dire qu'on a reconstruit des boules d'hermelle avec des photos en trois dimensions, et donc on peut les manipuler, on peut aller zoomer à l'intérieur et puis voir les espèces qui vivent à côté. Et puis il y a aussi d'autres, ce qu'on appelle des capsules pédagogiques, donc on se déplace et puis il y a une capsule où on peut en fait être transporté sur différents endroits en France pour voir les différentes formes que les récifs d'Hermel peuvent avoir, parce que ces récifs ne prennent pas la même forme partout selon l'environnement où ils sont fixés.
Ouais, des petits architectes de la nature. Il nous reste qu'une minute à peine pour juste expliquer pourquoi c'est intéressant d'étudier les Hermels en dehors de l'aspect esthétique.
Oui, mais on pourrait se dire que c'est aussi important, ça fait partie de notre patrimoine biologique, notre patrimoine paysager, marin, de préserver ces récifs qui forment un paysage complètement unique. Mais c'est aussi parce qu'elles jouent des rôles écologiques assez fondamentaux pour toutes les autres espèces. C'est un rôle de maintien de la diversité, en fait, parce qu'il y a plein d'espèces qui vivent associées à ces hermels et qu'on trouve nulle part ailleurs. Il y a par exemple des espèces terrestres qui vivent dans les récifs, dans les poches d'air maintenues dans les récifs. Oui. C'est une particularité unique. Il y a des espèces terrestres qui vivent avec 10 mètres d'eau au-dessus de leur tête.
Pas mal.
Parce que ces récifs-là protègent la côte de l'érosion côtière aussi, en maintenant le sable, en le piégeant, en le fixant. Et puis parce que, puisqu'elles filtrent l'eau, eh bien, ça forme un immense filtre biologique. Et donc, il y a une fonction écologique aussi majeure à ce titre, en fait. Et donc, toutes ces fonctions écologiques fait que ces espèces ont un intérêt scientifique assez central, en fait.
Stanislas Dubois, je crois que vous serez obligé de revenir un jour pour nous parler aussi des menaces qui pèsent sur les hermels, etc. Merci beaucoup, c'était passionnant. Au revoir.
Au revoir.
Et c'est la fin de cette émission. Et vous pourrez bien sûr la réécouter sur le site internet. Et on mettra aussi l'adresse du site sur les hermels.